Le journal vous est présenté par Anne Fauquemberg.
Bonjour. Une minute de silence à l'Élysée en hommage aux femmes victimes de violences, battues, violées ou encore tuées. Discours indigné d'Emmanuel Macron qui s'engage à renforcer l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre société. Nous entendrons le chef de l'État puis nous serons en direct depuis l'Élysée avec Hélène Masquelier. Se structurer sans devenir un parti politique traditionnel, tout l'enjeu pour la France Insoumise, réunie ce week-end en convention à Clermont-Ferrand. Explication à suivre de Sophie Delpont. Le bilan de l'attaque d'hier contre une mosquée en Égypte, revu à la hausse, il y a désormais 305 morts. Pourquoi le président Al-Sissi n'arrive pas à imposer la sécurité dans ce pays, en dépit de son volontarisme? Analyse du politologue Hasni Abidi dans un instant. Et puis à 12h40, votre rendez-vous avec Marie Viennot et la bulle économique. Quasiment deux mois après l'éclatement au grand jour de l'affaire Weinstein aux États-Unis, la multiplication de témoignages d'agressions faites aux femmes dans tous les milieux sociaux en France, le président Emmanuel Macron s'empare du sujet. À l'occasion de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, le chef de l'État s'exprime en ce moment même depuis l'Élysée. Emmanuel Macron, qui a fait aussi observer une minute de silence pour les femmes mortes sous les coups d'un homme, le chef de l'État n'a occulté aucune responsabilité dans ces drames du quotidien.
Notre situation jusqu'alors démontre que quelque chose ne marche pas dans notre République. La honte que subissent ces femmes, une honte illégitime parce qu'elles sont déjà victimes, cette honte doit devenir celle de ces auteurs de violences. Et c'est surtout une honte civique et politique, une honte nationale. Car la République, en échouant à éradiquer ces violences, a échoué dans sa vocation même, qui est celle d'éduquer, de civiliser, de protéger. Et ce discours de dignité, d'égalité de droit, de justice, de respect, que la République porte partout et en tout temps, semble n'avoir pas atteint la conscience de ceux qui commettent ces violences. Ce ne sont pas des criminels comme les autres. Ce sont des pères, des frères, des patrons, des collègues, des maris ou des compagnons. Oui, la plupart d'entre eux appartiennent au cercle proche des victimes. Ce sont des citoyens ordinaires auxquels nous n'avons pas su inculquer les fondements mêmes de notre vie sociale. Qu'aucune des règles, aucun des principes enseignés par l'école, par notre histoire, par nos lois, n'est venu éclairer ou simplement dissuader.
Emmanuel Macron qui s'exprime en ce moment même depuis l'Élysée où vous vous trouvez. Hélène Masquelier, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron s'exprime donc devant un parterre de 200 personnes environ, composé notamment de plusieurs représentantes d'associations féministes. Vous nous détaillez les principales mesures annoncées par le chef de l'État.
Oui, le président l'a rappelé, il dit que la honte change de camp, c'est ce qu'il a dit entouré de plus de 5 ministres, pour montrer que c'est tout le gouvernement qui est entré dans ce combat. Il a annoncé plusieurs actions résolues. D'abord, un budget alloué à ce combat qui sera augmenté en 2018 avec des crédits attribués aux associations en hausse de 13%. Ensuite, le président a annoncé trois grandes priorités. Tout d'abord, l'éducation. Il faut diffuser la culture de l'égalité, a-t-il dit, et changer les mentalités, et ce, dès la crèche, qui est donc un lieu où l'on se construit, a rappelé le président. Il faut également rappeler qu'il a annoncé la formation de professionnels de la petite enfance pour lutter contre la représentation, en annonçant que cette altérité ne se transformerait pas en inégalité. D'autre part, il a parlé de la publicité et du marketing en disant qu'il fallait apprendre à déconstruire les représentations, et ce, au travers des médias et de la publicité. D'autre part, il a annoncé qu'il fallait mieux traquer les contenus qui construisent ces représentations, notamment grâce à l'audiovisuel public, et donc le CSA, qui devra réguler plus efficacement l'accès aux contenus pornographiques notamment, et les jeux vidéo pour les plus jeunes. Ainsi, il a donc annoncé la prévention du cyberharcèlement, avec donc la présence du ministre de l'Éducation qui l'a appuyé dans ce sens, avec une opération de sensibilisation des parents pour repérer les premiers signes de ce cyberharcèlement, et ce en parallèle avec une formation de tout le personnel d'enseignement. D'autre part, le président Macron a également préparé des actions au niveau des transports, en proposant l'arrêt du bus à la demande, donc une femme dans la rue qui pourra tout simplement héler le bus sans devoir se rendre à la station. Autrement, il a également prévu d'accompagner mieux les victimes en prévoyant une cellule d'écoute et le lancement d'une application qui permettra donc de lancer ce grand combat culturel, comme il l'a appelé.
Merci Hélène Masquelier pour vos précisions. Vous étiez en direct de l'Élysée. L'Élysée qui bruisse encore également des rumeurs du remaniement annoncé hier. Benjamin Griveaux est devenu porte-parole du gouvernement en remplacement de Christophe Castaner qui garde toutefois son portefeuille aux relations avec le Parlement. Deux nouvelles têtes font leur entrée au gouvernement. Les passations de pouvoir ont eu lieu ce matin. Delphine Gény-Stéphan arrive à l'économie et aux finances et le socialiste Olivier Dussopt à l'action et aux comptes publics. Cette nomination fait d'ailleurs beaucoup réagir chez les socialistes qui vont d'ailleurs l'exclure. L'ancienne ministre des Droits des Femmes, Laurence Rossignol, estime ce matin qu'Olivier Dussopt va devoir appliquer une politique qui correspondra au contraire exact de ses convictions. La France insoumise à la recherche d'un nouveau souffle, ébranlée par une série de polémiques et l'échec du mouvement social face aux ordonnances travail, la formation politique de Jean-Luc Mélenchon cherche à se structurer sans pour autant reformer un parti politique traditionnel. Une convention nationale se réunit ce week-end à Clermont-Ferrand. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Jean-Luc Mélenchon, dont la cote de popularité est en forte baisse dans un sondage diffusé pour l'Institut Odoxa, doit s'exprimer cet après-midi.
Oui, remobiliser, rassurer les troupes, ce sera certainement le cœur du discours de Jean-Luc Mélenchon dans un peu moins d'une demi-heure devant près de 1600 personnes. Il espère lancer dès aujourd'hui une nouvelle séquence pour la France insoumise dans le rôle de premier opposant à Emmanuel Macron. C'est un moment de retrouvailles aussi pour les insoumis et leurs leaders, car le dernier discours de Jean-Luc Mélenchon, c'était l'appel à la jeunesse lancé le 23 septembre dernier depuis la place de la République à Paris pour clore la grande marche contre les ordonnances de la loi travail. Aujourd'hui, c'est un rassemblement dans une grande halle en périphérie de Clermont-Ferrand sur une zone industrielle. Autre décor, autres enjeux, c'est un rendez-vous pour se recentrer et préparer une opposition de temps long. Les insoumis sont venus de toute la France avec même un représentant de Nouvelle-Calédonie et un insoumis venu de New York, précisent les organisateurs. L'âge des participants va de 15 ans à 83 ans. 75% des personnes présentes ici ont été tirées au sort. Tirage au sort aussi pour les prises de parole dans ces deux jours et un vidéomaton est également prévu pour enregistrer des messages qui seront diffusés notamment pendant cette convention. Ces deux journées sont consacrées à des réflexions, des cogitations selon les mots de Charlotte Girard, l'une des têtes pensantes de la France insoumise. Aujourd'hui, on définit les objectifs en dévoilant les trois campagnes prioritaires issues de la grande consultation en ligne auprès des adhérents du mouvement. Demain, la boîte à outils, les méthodes de mise en œuvre, c'est-à-dire des formations pour développer l'auto-organisation et favoriser une implantation durable, notamment dans les quartiers populaires. Et concernant le sondage Odoxa pour le Figaro et France Info, publié aujourd'hui, qui dévoile une chute de 6 points de la popularité de Jean-Luc Mélenchon, la première chute en 2 mois, le directeur des campagnes du mouvement, Manuel Bompard, le balaie d'un revers de main. Ça ne correspond pas au retour du terrain, selon ses mots. Une affirmation que les insoumis tirés au sort ici viendront peut-être nuancer.
Merci Sophie Delpont et merci à Benjamin Chauvin pour les moyens techniques. Pour aller plus loin sur cette convention de la France insoumise et les défis pour la formation de Jean-Luc Mélenchon, rendez-vous en une sur notre site internet franceculture.fr. La prière et le recueillement en Égypte. Au lendemain de l'attaque terroriste contre une mosquée dans le nord du désert du Sinaï, les funérailles s'organisent pour les victimes. Le bilan a été revu à la hausse et cet attentat, le pire de l'histoire récente du pays, s'alourdit à 305 morts. Le pays est entré dans un deuil national de 3 jours. L'attaque, qui n'a toujours pas été revendiquée, mais en parallèle, la nuit dernière, l'armée égyptienne a répliqué avec des frappes aériennes dans la région orientale du Sinaï, le désert toujours, qui constitue l'une des bases arrière du groupe État islamique. Le président égyptien a promis hier soir, je cite, de venger les martyrs, mais Abdel Fattah el-Sissi semble bien impuissant à freiner le développement de cellules djihadistes. Hasni Abidi, spécialiste du monde arabe et directeur du Centre d'études sur la Méditerranée et le monde arabe de Genève, nous explique pourquoi cette impuissance.
Malheureusement, le carnage du vendredi, mais aussi les opérations à répétition perpétrée par l'État islamique ou d'autres groupes montre finalement que la stratégie adoptée jusque-là par le président Sissi depuis son arrivée au pouvoir a atteint ses limites et malheureusement le pouvoir refuse d'admettre l'échec de cette politique et réviser sa stratégie en, bien sûr, faisant un débat national pour trouver la meilleure parade contre les agissements des groupes terroristes. Aujourd'hui, le seul langage en Égypte, hélas, c'est le langage de la force, c'est la violence et la contre-violence. Il faut revenir à faire de la politique pour intégrer tous les acteurs politiques, un véritable débat national. Et en même temps, il faut absolument que les démocraties occidentales, et notamment la France, adoptent un autre ton face au régime égyptien, c'est-à-dire un dialogue exigeant, inclusif, en demandant au président égyptien de mener une politique nationale de réconciliation. On le voit bien que ces agissements, malheureusement, risquent de radicaliser une partie de la population et continuent de jeter l'Égypte dans un tunnel, bien sûr, de violence et de contre-violence.
Des propos recueillis par Laurence Méride concernant le sort de la minorité birmane Rohingya, dont plusieurs milliers de membres sont actuellement réfugiés au Bangladesh. C'est un soulagement pour les organisations de défense des droits de l'homme. Dhaka et Rangoon ont finalement accepté l'aide du Haut Commissariat pour les réfugiés afin d'organiser le rapatriement de ces personnes en Birmanie. Le processus devrait commencer dans 2 mois après un accord signé jeudi dernier entre les deux pays. Cette présence du HCR permettra notamment d'avoir des observateurs extérieurs pour garantir ces retours dans de bonnes conditions. Au Zimbabwe, la justice a jugé légal le coup de force de l'armée qui a abouti à la démission mardi dernier du président Robert Mugabe. Les magistrats d'un tribunal d'Harare ont estimé que cette intervention visait à empêcher des personnes non élues d'occuper des fonctions électives. Ce tribunal avait été saisi par 2 citoyens zimbabwéens. Il est 12h40 sur France Culture. Paris choisi pour accueillir l'autorité bancaire européenne après le Brexit. C'était cette semaine. Et retour sur cette décision avec vous, Marie Viennot.
La bulle économique, Marie Viennot.
Bonjour. Cette semaine, la France a marqué un point de plus dans la course post-Brexit catégorie finance. Dans cette course au dépeçage de la City de Londres, il y avait une pièce maîtresse à ne pas manquer, l'autorité bancaire européenne. Bingo, c'est Paris qui est sorti du chapeau, car oui, la finale face à Dublin s'est faite au tirage au sort. L'autorité bancaire européenne est l'une des autorités créées pour réguler le secteur financier après la crise de 2008. Elle transforme les directives communautaires en règles applicables aux banques. À sa tête, un Italien, Andrea Enria. Toute une carrière dans la finance publique, écoutez-le raconter les débuts de l'autorité qu'il préside à l'occasion de ses 5 ans.
We have often felt alone in the face of a huge workload, with scarce resources and sometimes weak legal basis to do what needed to be done.
Nous nous sommes sentis souvent seuls face à une charge de travail énorme, des ressources limitées et parfois une base légale très faible pour faire ce qu'il y avait à faire.
Hence, let me take this opportunity.
Le président remercie ensuite ses collaborateurs, ceux-là même qui vont déménager bientôt à Paris. 159 personnes venues de 24 pays. Si peu, vous dites-vous peut-être. Mais attention, ces emplois sont des aimants à profession financière. De la présidence à Bercy au lobby bancaire, tout le monde est d'accord. Ces 150 régulateurs décuplent l'attractivité financière de la place de Paris. Comme Paris a déjà l'autorité européenne des marchés financiers, cela fait 2 régulateurs chez nous. Il sera plus facile de se rencontrer et d'échanger, explique l'un des représentants de la place financière de Paris. C'est important de savoir dans quelle direction s'oriente la réflexion du régulateur. Important pour s'y préparer, pour l'influencer, le mot lobbying n'est jamais utilisé. Mais c'est une pratique courante, légale, transparente même. Sur Internet sont consignés tous les rendez-vous du président de l'autorité bancaire. Quand ce président et son équipe vivront à Paris, les rencontrer sera plus facile, plus fortuit peut-être aussi et non consignable.
Ce soir, je te préviens, on déménage ce soir.
On ne saura jamais vraiment après quel marchandage Paris est arrivé en finale face à Dublin. Le lobby financier et le gouvernement mettent en avant les réformes du droit du travail, de la fiscalité, l'expertise de la France dans la régulation. Mais sur ce point, les avis sont partagés. N'est-ce pas la France qui a freiné des 4 fers quand la Commission a proposé de séparer les activités bancaires ? Pourquoi n'a-t-elle pas vu de conflit d'intérêts quand l'un des dirigeants de BNP Paribas a pris sans transition la direction de la Banque de France ? Et le choix de la finance, est-ce un bon choix économique pour la France ? Toutes ces questions, on les entend peu poser. Des études de l'OCDE et de divers chercheurs montrent qu'il peut y avoir un lien négatif entre croissance et finance, mais le tapis rouge est déroulé par tous, quelle que soit la couleur politique et sans réel débat. C'est François Hollande qui a même commencé. C'est sous sa présidence qu'a été votée l'exonération totale d'impôt sur le revenu pendant 5 ans de tous les nouveaux arrivants sur le sol fiscal français. Au salaire de la finance, vous êtes les bienvenus. Mais attention, traders, vos bonus ne compteront pas dans vos indemnités de licenciement. Les députés ont adopté hier un amendement en ce sens, non pas dans le projet de loi de finances, mais dans le projet de loi de ratification des ordonnances sur la loi travail. Les patrons des banques qui veulent s'installer à Paris seront rassurés, mais c'est aussi, a dit la ministre du Travail, une mesure pour la justice sociale.
Allô, dites-moi comment ça va ce soir.
Merci Marie Viennot. La bulle économique est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. La météo de cet après-midi du samedi 25 novembre, temps maussade sur la majeure partie du pays. Des averses de grêle à prévoir en Normandie. Seule la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est épargnée par les pluies. Et les températures 3 à Lyon et Lille, 5 à Paris, 7 à Bordeaux, 8 à Cherbourg et jusqu'à 14 à Ajaccio. Journal préparé avec Emmanuel Faucillon à la technique. C'était Jean Frédérix.